Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers complices, chers compagnons et compagnons, bienvenue. Je vais vous demander une petite minute de silence. On va vous présenter rapidement le contenu de la soirée. Et puis ensuite, sans attendre, nous nous rendrons dans la salle à côté pour visionner le collage vidéo dont l'auteur est parmi nous.
C'est toi qui l'as fait, hein ?
Oui, complètement.
Pas le film, le collage.
Non, le collage. Voilà. Alors, c'est, en quelques mots, ces causeries, bon, beaucoup d'entre vous sont parmi les fidèles déjà de ces rencontres. Sachez que ces rencontres ont vocation à se poursuivre, mais qu'elles ont vocation à se faire ensemble. C'est-à-dire que si chacun de vous a une idée, une envie, un souhait particulier, des contacts, que ce soit ici ou plus loin, eh bien, ce serait avec beaucoup de plaisir que toute l'équipe de Lissignol, des causeries de Lissignol, eh bien, collaborerait pour organiser ces soirées ici. Comme vous le voyez, les locaux sont absolument merveilleux, ils sont chauffés, ils sont confortables. Je dis ça parce que nous, on n'a pas ce confort-là quand on fait nos petits machins aux grottes. Et donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc les personnes parmi nous, ben, il y a ces personnes ici, Daniel est là également, Ivar, enfin toutes ces personnes sont parmi les organisatrices et teurs de ces soirées. N'hésitez donc pas à prendre contact. J'aurais encore envie de vous dire une seule chose avant que mes amis poursuivent la parole. Moi, je fais par ailleurs une petite radio qui s'appelle Libre Radio. C'est une radio d'inspiration libertaire. Et alors, évidemment, pour archiver, mais également pour que les personnes qui ne peuvent pas être présentes puissent écouter ce qui va être dit ici, eh bien, j'enregistre ce qui s'y passe. Mais je ne le ferai pas si quelqu'un d'entre vous s'y opposait. C'est-à-dire que, vous le savez, la radio est un média anonyme. Nous sommes plutôt bienveillants puisque nous sommes des alliés de ce type de rencontre. Mais voilà, si parmi vous, il y a des personnes qui n'auraient pas envie d'être enregistrées, vous me le dites et puis je peux effacer la partie où la personne intervient.
Je vous remercie d'être venu. Peut-être dire que nous sommes en fait un collectif d'orientation libertaire et nous traitons différents sujets pertinents d'actualité. Bon. On passe au collage vidéo.
Voilà. Il y a juste une feuille qui est ici, si vous vous laissez vos coordonnées pour être tenu au courant des événements qui vont suivre, c'est bienvenu. Donc juste laissez, il y a un stylo et une feuille.
On va passer à côté.
Pour l'arrêt de deux mots sur la structure de la rencontre, qui est plus ou moins toujours la même. On commence par un bout de film, quand il y en a un, ou une présentation, soit un bout de film. Et ensuite, on revient ici et on passe un moment de conversation entre nous. Il n'y a donc pas de présentation, puisqu'il y a le film qui va causer abondamment du thème de ce soir. Ce soir, une entorse à la coutume, c'est que, ça ne fait pas longtemps qu'on existe, mais il y a déjà des traditions. L'entorse, c'est que le film dure normalement une demi-heure à peu près. Ce soir, j'ai essayé de compacter, je vais dire encore ça, donc il y en a pour trois quarts d'heure. J'espère que votre patience ne sera pas trop mise. Voilà, une fois qu'on aura fini ça, on pourra revenir ici.
Donc. Voilà, avant de commencer, deux mots sur le film. Ce sont des extraits d'un film dont le titre est Chomsky et compagnie, qui a été fait par Daniel Mermet. On est bien l'émission La Basse Édition. Qui a été sabré après de nombreuses années d'existence, qui a été vidé de France Inter, et ça se poursuit maintenant, pour ceux qui s'intéressent, sur le web. On peut s'abonner à La Basse Édition qui continue de produire. Le film a été donc fait par Mermet auprès de Chomsky et Bayarjon à Boston et à Québec. Et donc ça a été produit par les Mutins de Pangée, donc c'est la minute de publicité, qui est une coopérative de production de films absolument géniale. Et le film est en vente sur la table de presse qui est à la sortie, ainsi qu'un certain nombre de livres en relation avec le sujet de ce soir.
Massacre au Salvador, au cours des obsèques de l'archevêque Oscar Romero, le 31 mars 1980. Pour expliquer comment fonctionne la fabrique de l'opinion, Chomsky prend souvent l'exemple de deux prêtres dissidents assassinés au début des années 80. Comment le premier est devenu le symbole planétaire de l'horreur soviétique et comment la mort du second a eu 100 fois moins d'importance. Le 24 mars 1980 au Salvador, alors qu'il célébrait la messe, Oscar Romero était assassiné. Il était une des figures de la lutte contre la dictature soutenue et imposée à son pays par les États-Unis. Cet assassinat a suscité beaucoup moins d'émotions que celui d'un autre prêtre, le père Popielusko. Le 19 octobre 1984 en Pologne, le père Popielusko, un prêtre dissident, est assassiné par la police du pouvoir communiste. L'émotion est immense, les médias se déchaînent, l'assassinat du prêtre devient l'événement numéro un. Par 10 fois, le New York Times consacre sa première page au prêtre assassiné par le régime communiste. Noam Chomsky et Edward Herman entreprennent alors une étude comparative très précise de la couverture médiatique des deux assassinats. Résultat, le prêtre polonais, victime du régime communiste, soutenu par l'URSS, est 100 fois plus important que le prêtre du Salvador, victime de la dictature soutenue par les États-Unis. Mais comment fonctionne cette énorme désinformation? Qui sont les instigateurs? Chomsky le répète inlassablement, il n'y a aucun complot, il n'y a pas un bureau secret quelque part où des cerveaux malfaisants tirent les ficelles de l'opinion. Les États-Unis ne sont pas une dictature, les médias sont libres, tout comme en France où les journalistes sont absolument sûrs d'être absolument libres.
Les journalistes sont devenus un pouvoir, donc ils sont critiqués comme n'importe quel pouvoir. Il y a toujours eu cette suspicion, elle est encore plus forte aujourd'hui. Je pense que les journalistes ont l'indépendance dans leurs mains et ils n'ont qu'à s'en servir. C'est à eux que revient l'unique et seule responsabilité. Mais après, c'est une question de tempérament.
L'indépendance et la rigueur, on l'a ici dans notre main. C'est à nous de nous en servir. On a la possibilité de nous en servir. Si on ne s'en sert pas, les journalistes n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux. J'étais à distance, je ne les appelle jamais pendant la campagne, je ne déjeune jamais, ni dîne avec eux depuis maintenant 6 mois. Je fais extrêmement attention de garder cette distance naturelle. Oui, ça me paraît important. Freedom, here comes the freedom man.
Les journalistes, quand ils sont mis en accusation, ils disent tout de suite, personne ne fait pression, j'écris ce que je veux, je suis libre de prendre toutes les positions que je veux. Mais s'ils prenaient des positions qui vont en dehors de l'idéologie dominante, là, ils écriraient même plus ces billets d'humeur ou ces éditos.
This is not 100%. So, for example, I can write op-eds in American newspapers, but it's overwhelmingly the case.
Ce n'est pas 100% des cas. Moi-même, je peux écrire des éditoriaux dans la presse américaine.
It's not a totalitarian state.
C'est pas un état totalitaire non plus.
But the fact of the matter is that unless you...
Mais si tu ne rentres pas dans un certain cadre, dans un certain nombre de critères, tu ne seras pas pris en compte comme un des commentateurs écoutés.
And in fact, that illustrates the way the difference between propaganda.
C'est la différence qu'il y a sur le fonctionnement de la propagande dans les états totalitaires et dans les démocraties.
A little bit of exaggeration, but in general, it's like this. In a totalitarian state,
on exagère un peu. Dans les États totalitaires, c'est le pouvoir à la tête de l'État qui décide de la ligne du parti.
Declares the party line.
Et chacun doit alors y adhérer et s'y soumettre.
Democratic societies, it doesn't work like that.
C'est différent dans les sociétés démocratiques.
The party line is never.
Là, la ligne du parti n'est jamais énoncée comme telle. Elle est sous-entendue.
Within that presupposition.
Et c'est dans ces présupposés qu'il pourra après y avoir un débat passionné, mais qui se limitera à ce cadre précis.
The system in the democratic societies is very effective. It instills the party.
Dans les sociétés démocratiques, la ligne, elle est comme l'air qu'on respire.
Look at it.
Elle est sous-entendue, elle est sous-tendue, et donne du coup l'impression à tous les gens qu'il y a un débat très vigoureux.
C'est
très efficace comme système, et que ça marche beaucoup mieux que dans les systèmes totalitaires.
Mais malgré tous les efforts déployés pour travailler l'opinion dans le bon sens, il arrive que les gens ordinaires finissent par enrayer la machine à décerveler. En France, en mai 2005, les élites médiatiques ont largement et ouvertement soutenu le oui au référendum sur la Constitution européenne. Malgré ça, les Français ont voté non, un non qui était aussi un non à la domination médiatique.
Few studies that have been carried out
pas eu de recherches en profondeur sur ce sujet-là, mais celles qui ont été menées montrent qu'en fait, l'influence la plus importante est sur la population la plus éduquée.
But for the general population, they seem to be far less influential.
Alors que la population, la masse de la population a l'air d'être beaucoup moins marquée et influencée par les médias.
So one striking illustration of that in the United States is that there is an enormous gap.
Il y a un fossé, par exemple, aux États-Unis, entre l'opinion publique générale et celle des gens éduqués.
Opinion corresponds to public
health. Et celle des gens éduqués recouvre celle de la politique générale qui est menée. Il y a un écart d'autant plus important avec la masse de la population.
Now let's take a current issue.
Prenons un exemple précis, par exemple, la guerre éventuelle contre l'Iran.
In both countries, overwhelming majorities think that
l'écrasante majorité de la population des deux pays trouve que l'Iran devrait avoir un nucléaire civil, mais pas nucléaire militaire. Il devrait y avoir une zone sans engin de guerre nucléaire qui irait d'Israël à l'Iran et qui comprendrait aussi les troupes américaines basées dans la région.
And that they should eliminate all nuclear weapons in the world.
Et que toutes les armes nucléaires devraient être éliminées dans le monde entier, pour le coup. Et pour trouver cette représentation de cette opinion dans les médias, il faut s'accrocher, il faut chercher très loin.
And in the political parties, it's not a position.
Et c'est une position qui n'est reprise par aucun parti politique.
In fact, if Iran and the United States were...
Et si les États-Unis et l'Iran étaient effectivement des démocraties où l'opinion publique influençait la politique générale, cette question serait probablement déjà réglée.
Mais vous nous dites que l'opinion mondiale, enfin américaine, et l'opinion iranienne sont opposées à cette offensive américaine. Comment on va convaincre ces opinions ?
It's easy. All you have to do is contrive an incident.
C'est très facile, il suffit de créer un incident, une étincelle qui déclenchera tout ça. Il y a un énorme déploiement de forces navales dans le golfe Persique. Tôt ou tard, il va se produire un accident. Et si l'administration Bush décide de faire la guerre, c'est très facile ou bien de saisir le premier incident venu, ou même d'en fabriquer un. Et à partir de là, la machine de guerre sera emballée.
Un exemple, le 4 août 1964, les médias annoncent que le Maddox, un navire de guerre américain, est attaqué par le Nord-Vietnam communiste. Le président américain Lyndon Johnson dénonce cette provocation.
The attacks were deliberate. The attacks were unprovoked. The attacks have been answered.
Johnson obtient les pleins pouvoirs militaires pour faire échec au communisme. Au nom de la défense du Sud-Vietnam, il déclenche la guerre aérienne contre le Nord.
The determination of all Americans to carry out our full commitment to the people and to the government of South Vietnam will be redoubled by this outrage.
En réalité, le navire Maddox n'avait jamais été attaqué. Un rapport officiel a clairement établi que le gouvernement américain avait utilisé un prétexte pour justifier l'offensive. On trouve beaucoup de manipulations comparables dans l'histoire. Pour justifier l'attaque de l'Irak en 2003, le gouvernement américain avait inventé les armes de destruction massive. À chaque fois, il s'agit d'indigner et de terroriser l'opinion pour obtenir son adhésion à la guerre.
Let's take again, say, Germany in the 1930s.
Prenons un exemple tout simple, l'Allemagne dans les années 30.
I mean, Germany, we tend to forget.
On a tendance à oublier que l'Allemagne à l'époque était le pays le plus en avant dans tout le monde occidental.
It was at the peak of science.
La pointe dans l'art, les sciences, la littérature, la philosophie.
Within a few years.
Et en quelques années, ça s'est retourné en étant le pays le plus meurtrier, le plus barbare que l'humanité ait connu depuis longtemps.
And a lot of it was based on
en suscitant de la peur.
Fear of the Bolsheviks,
la peur des bolcheviques, les juifs, les américains, qui menaçaient le cœur de la civilisation européenne, les héritiers directs de la civilisation grecque. Il suffit de voir les règles du ministère de la propagande allemand à l'époque, c'était très simple. Il suffit de prendre des mots simples, les répéter encore et toujours, les associer à des peurs, les associer à des sentiments.
Thank you. mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten.
They were borrowing consciously.
Et ils étaient en train de reprendre délibérément les techniques marketing des marchands américains qui sont développées principalement dans les années 20.
In the freest countries in the world,
dans les pays les plus libres du monde, l'Angleterre, les États-Unis. Le cœur vraiment de l'industrie moderne de relations publiques, qui est en fait de la propagande.
And the reason was, it was conscious.
Et la raison de ça, c'était qu'il y avait un tel développement des libertés que le pouvoir, l'État, ne pouvait plus régner sur les gens par la violence.
There were parliamentary labor parties.
Les partis de gauche, les femmes avaient le droit de voter, il y avait la liberté d'expression, les gens avaient plus de droits.
So then there was a move.
Et c'est de faire là qu'on est allé vers la fabrique du consentement.
And that's a lot of progress.
C'est un grand progrès.
I mean, it's much easier to face.
Mais oui, c'est beaucoup plus facile d'être confronté à une publicité qu'à une chambre de torture.
La fabrique du consentement est une expression d'un journaliste célèbre dans les années 20, Walter Lippmann. Fabriquer du consentement, c'est-à-dire obtenir l'adhésion et la soumission de l'opinion en créant des illusions nécessaires. Des illusions qui peuvent être la création de besoins artificiels ou bien, au contraire, la création de peur, d'insécurité ou de terreur. Bref, des illusions qui créent des désillusions. Pour Walter Lippmann, entre autres, le peuple est un troupeau égaré, un troupeau dérouté, bien trop émotif, bien trop incapable de s'occuper de ses propres affaires et qui doit être encadré, contrôlé et conduit par une avant-garde, une élite de décideurs éclairés. Les gens doivent être détournés vers des buts inoffensifs. Il faut les noyer, les assommer avec une masse d'informations qui ne laisse pas le temps de réfléchir. Il faut les persuader qu'ils sont incapables de provoquer des changements. Il faut les convaincre que la révolte entraîne toujours le pire. Il faut les faire voter de temps à autre, leur donner l'illusion de décider, l'illusion nécessaire. Pour Noam Chomsky, la grande réussite du lavage de cerveau en toute liberté dans les démocraties libérales, c'est d'obtenir sans violence ce que les États totalitaires obtiennent à coups de bâton. Chomsky n'est pas seul. Il est en liaison permanente avec un réseau informel de chercheurs, de militants, de dissidents à travers le monde qui échangent informations et analyses. Par exemple, Jean Bricmont, à Bruxelles, professeur de physique théorique et mathématique à l'Université de Louvain et auteur d'ouvrages critiques. Pour lui, dans la fabrique du consentement, il n'y a pas que les médias qui sont en cause.
Dans l'œuvre de Chomsky, il y a d'une certaine façon une critique de l'intelligentsia, une critique des intellectuels. Et donc, c'est plus vaste la critique des médias. En particulier, ce n'est pas seulement une critique des médias, comme on le fait trop souvent sur le mode des médias totalitaires, ni une critique des médias sur le mode simplement des médias qui sont payés par le patronat pour répandre telle ou telle nouvelle, mais d'un système idéologique. Et ce système idéologique, on peut en donner des exemples dans le fait que dans le discours sur les questions internationales, quand il y a des négociations par exemple ou des discussions sur des guerres, etc., il y a certains aspects qui sont cruciaux à mon avis et qui ne sont jamais soulignés par personne, sur lesquels il y a une unanimité totale pour faire le silence. Et donc vous avez toute une série d'éléments qui pour moi sont très importants parce qu'ils permettent de juger qui est vraiment l'agresseur et l'agressé dans les guerres. Et qui, s'ils étaient portés à la connaissance du public, détruiraient constamment, complètement la propagande de guerre. Et c'est ce que fait Chomsky d'une certaine façon, c'est de montrer la mauvaise foi dans les négociations, les massacres qui sont ignorés d'un côté alors qu'ils ont mis en avant de l'autre côté, etc. etc.
It's perfectly true that there were areas of the world, in particular Eastern Europe, where Stalinist imperialism very brutally took control and still maintains control. But there are also very vast areas of the world where we were doing the same thing. And there's quite an interplay in the Cold War. You see, what you just described is a mythology about the Cold War, which might have been tenable 10 years ago, but which is quite inconsistent with contemporary scholarship.
Ask a Czech,
ask a Guatemalan, ask a Dominican, ask a person from the Dominican Republic, ask a person from South Vietnam, Thai.
Well, I would say, anyway, if you can't distinguish between the nature of our venture in Guatemala and the nature of the Soviet Union's in Prague, then we have a real
difficulty.
Sorry.
ce que Chomsky Hermann montre, c'est que les mécanismes de sélection des autorités médiatiques, des intellectuels médiatiques, etc., font que, bien sûr, ceux qui seront sélectionnés seront ceux qui auront les idées adéquates pour le fonctionnement des systèmes. Et ça, c'est la force du système par rapport à des systèmes totalitaires, parce que les systèmes totalitaires ont l'inconvénient, du point de vue de leur propre efficacité, de dire aux gens, voilà, vous dites ça, et puis c'est comme ça, et vous ne réfléchissez pas. Ici, les gens réfléchissent et ils sont libres, et vous interviewez des journalistes qui disent qu'ils sont tous libres, et je suis sûr que subjectivement, ils pensent qu'ils sont libres. Et on n'a pas besoin de faire de pression sur eux. Pourquoi devrait-on faire de pression sur eux? Même dans le système totalitaire, il y avait des gens qui étaient des vrais militants convaincus de la légitimité du système, et sur eux, il ne fallait pas faire de pression. C'était sur les autres qu'il fallait faire de pression. Ici, les pressions se font par un processus de sélection relativement tôt. Quand des gens exercent un pouvoir sur d'autres, que ce soit des rois, les peuples de monarchie absolue, que ce soit l'Église, que ce soit les colons, que ce soit les bureaucrates, etc. Quand ils exercent un pouvoir sur d'autres, ils le font toujours pour le bien des autres. C'est toujours la justification. Il faut toujours montrer que le pouvoir est bon et qu'il le fait pour le bien. Et c'est aussi simple que ça, parce que comme ça, il passe aux yeux de la psychologie humaine. D'accord ? Et c'est comme ça que sinon, le pouvoir s'exerce par la force. Ça, c'est une autre chose. Mais s'il veut se faire dans les sociétés démocratiques où la force, en fait, joue un moins grand rôle parce qu'effectivement on peut manifester, on peut voter, etc. Le contrôle idéologique est plus important. Les maçons qui font comme si on avait un système qui contrôle les esprits, qui n'a pas envie de faire quoi que ce soit, etc. Il y a un certain désaccord et les gens prennent finalement ce qu'ils veulent. C'est souvent les intellectuels qui sont les plus endoctrinés, quoi. Les intellectuels sont, Chomsky dit quelque part, c'est que les intellectuels, comme ils doivent reproduire l'idéologie, sont aussi les principales victimes, c'est-à-dire que c'est eux qui intériorisent. Moi, j'ai souvent des intellectuels à qui je discute, ce sont en Amérique, alors j'ai l'impression de discuter de l'éditorial du New York Times du matin, qui vont ressortir comme si c'était leur pensée propre.
What's the mechanism by which the government influences the media to control?
Or, I mean, the government has almost no influence over the media.
But so how does that happen? Like, why? I mean, well, what's the underlying mechanism?
It's like asking,
motivation.
It's kind of like asking, how does the government convince General Motors to try to increase profit? It doesn't make any sense. The media are huge corporations which have which share the interests of the corporate sector that dominates the government. The government can't tell the media what to do. They don't have the power to do it here. Now, let me give you a simple example, really simple. When the current Intifada started in the occupied territories, it started on September 29th. Okay? On October 1st, 2 days later, Israel started using U.S. helicopters. There are no Israeli helicopters, they all come from here. Started using U.S. helicopters to attack civilian targets, apartment complexes and so on, killing and wounding dozens of people. That went on for 2 days. No Palestinian fire, just stone throwing from kids. On October 3rd, after 2 days of this, Clinton made the biggest deal in a decade to send military helicopters to Israel. The media here refused to publish it. To this day, there has not been a report. That was a decision of editors. Like, you know, I happen to know the editors of the Boston Globe. I've been living there for 35 years. I know all these guys. I actually went and talked to them, you know, and they simply made it clear they're not going to publish it. And the same decision was made by every other newspaper in the United States. The government, literally every one, somebody did a database search. The only reference to it in the country was a letter to the editor in Raleigh, North Carolina. Now, did the government tell them not to publish it? No. If it had told them not to, they probably would have published it just out of indignation. You know, that happens to be an unusually narrow and easily identifiable case, but it generalizes people.
Mais alors, comment se défendre contre cet endoctrinement? Et d'abord, comment détecter s'il y a ou non endoctrinement? Car il ne faut pas non plus se méfier de tout. Tout gober ou tout rejeter sont deux solutions tout aussi commodes pour se dispenser de réfléchir et d'agir. Voilà pourquoi il faut développer l'autodéfense intellectuelle. Il existe même un petit cours d'autodéfense intellectuelle. C'est un livre de Normand Baillargeon, avec qui nous avons rendez-vous dans la bonne ville de Québec. Normand Baillargeon est enseignant, journaliste et auteur, entre autres, de « L'ordre moins le pouvoir », ce qui a l'air d'être son but dans la vie.
En fait, l'expression « autodéfense intellectuelle », c'est une expression de Chomsky. Alors Chomsky dit « si on avait un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle, fort bien ». Mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Que comprendrait un tel cours? Et je me suis amusé à essayer d'en écrire. Le langage permet de dénoter des objets. Mais il permet aussi de connoter des objets. Alors, on peut, par un mot, renvoyer à, par exemple, un objet dans le monde, mais on peut aussi, en utilisant tel ou tel mot, on peut aussi colorer cette référence-là. On peut aussi, par le langage, donner une dimension majorante à quelque chose, ou une dimension minorante à quelque chose, ou une dimension plus neutre à quelque chose. Et c'est important de faire attention au choix des mots qu'on utilise pour nous parler, voyez-vous. Dire, parce que évidemment le langage politique est particulièrement propice à ces choses-là. Hein. Si on nous dit, remarquez le langage qu'on emploie pour nous parler des guerres, des frappes chirurgicales, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense 10 secondes. Que ça a du sens d'employer une expression comme celle-là pour désigner les bombardements intensifs qui sont faits, des pertes collatérales, c'est la mort de civils innocents. Il est important de faire attention au choix des mots qu'on utilise pour nous parler de la réalité.
Après la grande crise de 2008, après le psychodrame grec et les angoisses autour de l'euro, le paysage a complètement changé, les chiffres parlent, regardez, la croissance revient, plus 2,1% attendu.
Ouais. Des firmes de relations publiques ont été engagées pour essayer de passer le message, pour essayer de faire en sorte que le message passe au mieux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un travail sur le langage. Ils ont vraiment délimité un champ sémantique de mots à connotation positive qu'il était utile d'employer. Je donne des exemples de nature, naturel, etc. Et des mots qu'il était interdit d'employer pour discuter de la réalité des OGM, parce que ces mots-là avaient des connotations négatives chez les gens. Alors ça, pour le savoir, ils ont fait des enquêtes auprès des gens. Ils leur ont décrit les organismes génétiquement modifiés en utilisant un certain type de vocabulaire, puis un autre, et ils ont regardé les réactions des gens. Ils ont été en mesure de déterminer quel type de langage Monsanto, par exemple, devait employer dans ses publicités, dans ses communications avec les gens, pour susciter une adhésion plus positive ou une vision plus positive de leur objet.
Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature.
Dans une société comme la nôtre, le consentement des gouvernés est extrêmement important. Et c'est pourquoi la phrase de Laboissier est pertinente. C'est-à-dire qu'il est important que les gens aient intériorisé des mécanismes, des visions du monde, des manières de penser qui sont conformes à ce que les intérêts des élites présupposent. Donc, on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination, c'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde. Tu vois? Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée. Tu vois? Lorsque la Première Guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de commission Creel, du nom du journaliste M. Creel qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont y naître. Edward L. Bernays, il est un des principaux créateurs de l'industrie des relations publiques.
And propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So what I did was to try to find some other words. So we found the word Council on Public Relations.
Et doublement de Sigmund Freud. Et son travail peut se comprendre en référence à Freud. C'est-à-dire que l'opinion publique, elle est là, ils ont des pulsions, des passions, ça ne résonne pas trop. Et il faut travailler ça, cristalliser ça, puis faire adhérer aux choses qu'on a décidé que le public devait croire. Vous suivez?
Des femmes qui fument parmi vous?
Tu fumes? Vous voulez vraiment nous stigmatiser?
Je vais te dire pourquoi tu fumes.
Edward Bernays va mettre les pratiques et les techniques qu'il a inventées, il va les mettre au service de ceux qui sont disposés à payer pour ces bons services, tu vois. Et à un moment donné, la compagnie Lucky Strike va venir le voir, tu vois. Vous connaissez encore cette marque, il y a encore des cigarettes, Lucky Strike. Et on va demander à Bernays de corriger le problème suivant. Voici le problème. Avant la Première Guerre mondiale, les hommes avaient plutôt tendance à mâcher du tabac, tu vois, à mâcher du tabac. Pendant la Première Guerre mondiale, les compagnies de tabac américaines vont envoyer aux soldats des paquets dans lesquels il y a des cigarettes. Ce qui fait qu'après la guerre, dans les années 20, les hommes fument. C'est devenu acquis. Par contre, les femmes ne fument toujours pas. Et c'est socialement mal vu pour les femmes de fumer, surtout en public, tu vois, surtout en public. Alors Bernays, on lui soumet le problème, on lui demande de... corriger ce problème-là, parce qu'évidemment, il y a la moitié du marché à les conquérir, tu vois. Bernays va se rendre compte que beaucoup de gens sont accueillent avec sympathie la cause des femmes, des suffragettes, de la liberté des femmes. Et il va jouer là-dessus pour amener les femmes à fumer. Et là, en 1929, lors de la fameuse Easter Parade à New York, il va couler des informations dans divers journaux et un peu partout, disant qu'un groupe de femmes, certaines d'entre elles étant connues, les actrices, etc., vont poser un geste d'éclat pendant la parade de Easter à New York, tu vois. Mais évidemment, il a tout coordonné, hein, il a tout planifié, il a payé ces gens-là. Et marchant à New York pendant la parade de Pâques, certaines femmes, et là les journalistes les attendent, le lendemain, ça va être dans tous les journaux en première page, sortent des cigarettes et les allument et les appellent des flambeaux de la liberté. Torches of Freedom. Alors, donc, Bernays va...
Ça fait drôle, hein?
Now, I'm a fellow with a heart of gold, with the ways of a gentleman. I've been told the kind of fellow that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Of course, it ain't cause I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a betting party or a poker game. Everything's gotta stop while they smoke the cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've gotta have another cigarette.
In a repeated national say, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
Un rapport catastrophique vient d'être rendu sur les changements climatiques, tu comprends? Mais au même moment où ce rapport paraissait, ExxonMobil, découvrait-on, promettait des sommes considérables, de mémoire 10 000 $ à des chercheurs qui réussiraient à faire paraître dans des revues avec comité de lecture des articles qui minoreraient l'importance du réchauffement climatique. Alors, ne pas être conscient de ça, c'est grave aussi. Alors, autant la science est un acquis extrêmement important pour l'humanité et pour la connaissance, autant la connaissance et la prise de conscience des conditions historiques, sociales, politiques, structurelles qui pèsent sur elles sont importantes.
The story reports that scientists are saying that global warming also threatens to trigger more powerful storms. Some think not, including Patrick Michaels of the Environmental Sciences Department at the University of Virginia, whose recent book on global warming is called Meltdown. Welcome to you, sir. Nice to have you here.
Nice to be here.
You're watching Fox News, real journalism, fair and balanced.
It's cooling. There's one place where it's warming, in the Antarctic Peninsula, but overall it's cooling. That's a typical example that I cover in my book about repeated distortions on this issue.
On est Patrick Michaels, climatologue et professeur à l'Université de Virginie. Patrick Michaels est un expert, donc ce qu'il dit c'est vrai, la planète refroidit. Voilà la thèse de Patrick. Et il vient défendre partout, partout, partout. Patrick est un de ces spécialistes médiatiques disponibles à tout instant, qui arrive tout de suite dès que les médias les appellent. Toujours prêt à vous informer. Sauf sur un petit détail. C'est que Patrick a une petite liaison avec Exxon. Exxon, la première compagnie pétrolière au monde, 25 milliards de dollars de bénéfices annuels. Et alors, quel rapport entre le pétrole et le réchauffement de la planète? Aucun, d'après Exxon. Oh oui, ça se réchauffe peut-être un peu, mais c'est naturel. Pour le prouver, Exxon a financé pas moins d'une quarantaine de groupes de lobbying pour faire pression dans tous les domaines, politique, recherche, médias. Et le sympathique professeur Patrick Michaels est lié avec pas moins d'une dizaine de ces groupes de pression. Et il arrive dès qu'on lui demande.
I will, I'll be happy to.
Thank you, Mr. Michaels. Good to have you with us. I had no idea that the Cato Institute had a weather guy on the staff.
We do.
Thank you.
Rien là de très étonnant. Rien de secret, aucun complot. Toutes les grandes compagnies défendent leurs intérêts de la même façon.
It says specifically that there is no basis in the scientific literature.
Mais c'est quelque chose qui peut expliquer pourquoi Chomsky affirme que le capitalisme et la démocratie sont incompatibles.
Vous savez, on tend facilement à valider par l'expérience personnelle nos croyances. Et on ne prend pas suffisamment le temps de se rendre compte que notre expérience personnelle peut être trompeuse. Et là, c'est une leçon importante de psychologie que de savoir ça, tu comprends? On peut très facilement se tromper. Je vais raconter un truc, peut-être que vous ne le croirez pas, mais chez vous, sur Internet, vous pouvez aller le voir. Un professeur de psychologie récemment a fait une vidéo, on mettra en ligne, si vous voulez, l'adresse du vidéo, vous pouvez aller le voir, vous arrivez là, vous dites à votre ami, tiens, à toi par exemple, mon cher Christian, tu vas regarder ce vidéo-là qui dure 45 secondes ou 55 secondes à peu près. Et dans la vidéo, tu vas voir deux équipes de joueurs. Des équipes qui sont vêtues d'un t-shirt blanc, des équipes vêtues d'un t-shirt noir. Chacune des équipes a des ballons de basketball et ils se font des passes. OK? Ils se font des passes par le sol ou ils se font des passes de main à main. Je veux que tu comptes le nombre de passes que se feront de main à main ou par le sol les membres de l'équipe des blancs et les membres de l'équipe des noirs. Ça va? Toi ou un ami va regarder cette vidéo-là, tata. Puis là, très vite, tu vas dire, ah, je suis mélangé, j'arrive plus, je perds le compte, c'est compliqué, gna gna gna. À la fin du vidéo, qui dure moins d'une minute, tu demandes à ton ami, que faisait le gorille? Et ton ami dit, il n'y a pas de gorille. Et tu dis, attends, on va le refaire. Et on remet le vidéo. Et là, tu vois les gens se faire des passes. Et à un moment donné, tu vois arriver en scène devant la caméra, un homme très grand, vêtu d'un costume de gorille noir. Et il se met en plein milieu, et il se tape sur la poitrine. Et il te fait des babayes, et il s'en va. Et personne ne le voit. Personne ne le voit. Et vous savez pourquoi personne ne le voit? Personne ne le voit parce que la tâche à laquelle on est attelé est tellement complexe et on est tellement mobilisé dessus qu'on construit notre perception. Alors notre perception, elle est construite et on tend très très souvent à l'oublier ça. Mais il y a un deuxième sens aussi, Daniel, où on pourrait dire que l'expérience peut être trompeuse, c'est que si on se fie uniquement à ce qu'on vit autour de nous pour juger de l'ensemble de notre société, on a une vision souvent extrêmement limitée, tu comprends? D'où l'expérience, l'importance d'avoir des relations avec d'autres, de discuter avec d'autres. Et moi, je pense profondément qu'une des raisons pour lesquelles le militantisme n'a pas tout le succès qu'on souhaiterait, c'est que notre société a réussi à nous isoler, à faire en sorte qu'on est chacun de notre côté. On regarde la télé tout seul, chez soi, le soir, tu vois? Et il nous arrive de penser que Oui, peut-être que ça n'a pas tout à fait de sens ce qu'on nous dit là, mais étant seul, on n'arrive pas à discuter, à échanger avec d'autres, on est limité à notre propre expérience, faut vrai. Alors donc non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur le plan de la vie politique, faut vrai. La sphère du politique suppose qu'on fasse ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on soit ensemble en train de discuter et qu'on puisse échanger avec d'autres, recevoir le point de vue des autres. Une des forces de notre système de propagande, je pense, c'est de nous avoir isolés à un point où c'est devenu très rare que d'avoir ce type de rapport-là.